Un élève va voir son ancien maître qui lui demande comment vont ses affaires. Bien, répond l'élève, j'ai une entreprise florissante qui se développe, je gagne beaucoup d'argent. Oui, dit le maître, mais comment vont tes affaires? Je vous l'ai dit, j'ai une belle entreprise, en outre ma femme est de plus en plus belle, j'aime mes enfants. C'est bien, lui dit le maître, mais comment vont tes affaires? L'élève est un peu surpris par le tour que prend la conversation. Et il répond, j'ai une belle entreprise, une belle famille, beaucoup d'amis et une vie sociale très riche. Tout cela est très beau, dit le maître, mais comment vont tes affaires? L'élève ne comprend plus rien. Que voulez-vous dire par « comment vont tes affaires ?»« Eh bien, répond le maître, jusqu'à maintenant, tu m'as parlé des bénédictions de Dieu sur ta vie. Tu ne m'as parlé que des affaires de Dieu. Ce que je voudrais savoir, ce sont tes affaires à toi. Et la seule chose qui dépend de toi, c'est ton cœur devant Dieu. Comment est ton cœur devant Dieu ?» Nous pouvons maintenant déposer nos soucis et nos préoccupations. Libérés de nos inquiétudes, nous sommes invités à prendre soin de cette part intime de notre être, notre cœur devant Dieu. Je vous invite à prendre le temps du silence, de l'écoute, de la méditation et de la prière. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Nous louons Dieu avec quelques versets du psaume 33. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de la famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Et c'est avec un autre psaume que nous allons chanter, le psaume 25, dont nous prendrons les strophes 1, 2 et 4. Psaume 25, page 52.
Je le verrai chaque jour. Dieu d'amour tu fais connaître aux plus humbles tes secrets.
Prenez place. Je vous invite à placer notre vie avec ses creux et ses pleins devant Dieu. Seigneur, parmi les idoles qui encombrent nos vies, il y a celles que tu as déjà brûlées. Parmi les fardeaux qui chargent nos cœurs, il y a ceux que tu as déjà allégés. Parmi les chaînes qui entravent notre amour, il y a celles que tu as déjà brisées. Si notre route monte ainsi vers toi, c'est que ta force est venue habiter notre faiblesse. Mais Seigneur, il nous arrive si souvent de céder au découragement, de nous faire du souci pour nous et pour nos proches, de douter de ta présence et de ton royaume au cœur de nos vies. Pour ce manque de confiance, ce manque de foi, Seigneur, pardonne-nous. De tous ces soucis actuels, inutiles, qui nous éloignent de toi, Seigneur, délivre-nous. De tous ces doutes accablants qui ligotent et notre vie et le meilleur de nous-mêmes, Seigneur, délivre-nous. Nous restons assis pour chanter de tous mes maux, il me guérit. L'amour de Dieu s'est manifesté ainsi. Il a envoyé son Fils dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Le Père Tout-Puissant nous pardonne. Il nous conduit à la vie éternelle. Alléluia. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Ô ma joie et mon espérance ».
Ma joie et mon espérance. Par lui j'espère, par lui j'espère, je ne crains rien.
Pardonnés et libérés, nous pouvons entendre ce que Dieu nous donne la force de faire. Dans le livre du Deutéronome, le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel, tu dirais alors, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer, tu dirais alors, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique? C'est au contraire une chose qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. J'en prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre, J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour obéir à sa voix et t'attacher à lui. De ton esprit, emplis nos êtres. Prenez place. Les lectures d'aujourd'hui, en fait, il y a une lecture, mais nous le ferons en deux fois, c'est le même passage, fait suite, à quelques versets près, à celui de dimanche dernier, lors de la reconnaissance du conseil presbytéral, et quelques thèmes seront ainsi repris. Avant, nous prions. Seigneur, la parole est pour tous les humains, semence de vie, ferment du royaume et germe d'espérance. Dispose nos cœurs et nos esprits pour que nous la recevions avec simplicité et joie. Que ta parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Marc chapitre 10, nous lirons du verset 35 au verset 41. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. » Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean.
Toujours dans le chapitre 10, versets 42 à 45. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur.
Thank you.
Prenez place. Il y a quelque chose de touchant, de presque enfantin avec les disciples dans cette histoire. Parce que je crois que tous les enfants, un jour ou l'autre, ont essayé avec leurs parents cette tactique. Je vais te demander quelque chose, mais promets-moi d'abord que tu vas dire oui. La réponse habituelle étant évidemment, dis toujours, on verra après. Ça arrive aussi avec les adultes. J'ai un truc à te dire, mais promets-moi d'abord que tu ne vas pas te fâcher. Généralement, à ce moment-là, je commence à craindre pour ma voiture. Mais ce n'est pas le sujet. Il y a quelque chose d'un peu désespéré dans cette tactique. Mais les disciples, enfin, deux des disciples, pour être précis, Jacques et Jean, fils de Zébédée, vont la tenter néanmoins. Et Jésus va bien se garder de s'engager sur cette voie et leur donnera donc la réponse classique. « Dites-moi ce que vous voulez, je répondrai après. » Mais que cache cette tentative vouée à l'échec de la part des deux frères? Leur demande de siéger à droite et à gauche du Christ leur semble un peu, sinon honteuse, du moins déloyale vis-à-vis de leurs camarades, puisqu'ils semblent réclamer une sorte de prééminence. D'ailleurs, la réaction indignée des dix camarades laisse entendre que c'est aussi comme ça qu'ils perçoivent cette demande. Leur indignation sonne un peu faux, parce qu'on se dit, je crois qu'ils se sentent un peu grillés, ils se disent, on aurait dû faire la demande avant. Une fois de plus, il ne saurait être question ici de se moquer ou de se croire supérieur aux disciples. Les disciples, comme à l'accoutumée, sont notre propre image. Ils sont là pour que nous puissions nous identifier. Après tout, leurs demandes sont assez raisonnables. Ils ont abandonné leur situation, ils ont travaillé, ils ont pris des risques et peuvent s'attendre en toute légitimité à recevoir un juste salaire. Ce qu'on peut éventuellement leur reprocher, et qu'on leur reprochera, c'est cette concurrence entre eux, de vouloir recevoir plus que les autres. Il est sans doute des situations dans lesquelles la concurrence, la compétition peut être porteuse de fruits. Ce n'est pas le cas dans l'annonce de l'Évangile. Et si vous vous souvenez du texte de dimanche dernier, si vous étiez là, vous pouvez vous apercevoir que Jésus n'est pas forcément hostile à une idée de récompense. Mais il sous-entend toujours que les récompenses ne seront pas forcément celles envisagées. On peut même imaginer, dans ce passage, une forme d'ironie ou d'humour noir dans les paroles de Jésus. Car lorsqu'il fait allusion à une coupe et à un baptême, nous savons, ce que les disciples ne peuvent pas imaginer à ce moment-là, qu'il fait allusion à sa mort sur la croix. Or, dans le texte de ce même évangile de Marc, c'est à ce moment-là que se trouve cette même expression, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Il s'agit des hommes crucifiés en même temps que lui, et qui ne sont ni Jacques ni Jean. Par conséquent, la parole de Jésus, quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui c'est préparé, prend un tout autre sens. Et les deux frères ne pourront que se réjouir de ce que leur demande n'ait point été exaucée. Une fois encore, le problème n'est pas de s'attendre à une récompense, mais de vouloir une récompense supérieure à celle des autres, ou plus exactement que cette récompense nous donne un avantage réel ou de prestige sur les autres. Jésus ne s'adresse pas qu'aux deux frères lorsqu'il rappelle que la mise en pratique de l'Évangile est avant tout un service du frère et de la sœur. Pas question non plus que ce service soit subverti en acte de puissance. Durant mes études, parmi toutes les lectures que j'ai été amené à faire, il y avait plusieurs textes du pape Jean-Paul II. Une phrase, ou plutôt une affirmation, m'avait choqué. Ne voyez pas dans mes propos un quelconque anticatholicisme. Il se trouvait que c'était un texte de Jean-Paul II, mais je suis persuadé qu'il existe des déclarations semblables dans toutes les confessions et dans toutes les religions et dans toutes les idéologies. Qu'est-ce qui m'avait donc tellement choqué que je m'en souvienne près de 30 ans après ? L'auteur, s'appuyant sur ce texte, affirmait que puisque le pape était le serviteur de tous, il devait être le chef. Je résume, hein, je dis avec mes mots à moi. C'était une inversion complète du sens de l'esprit des paroles du Christ. Là où Jésus disait qu'un chef doit servir, l'auteur affirmait que le serviteur devait commander. Et c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Pensez aux trains de vie et aux avantages que ceux qui se proclament serviteurs, ou autre mot synonyme, ministres, peuvent réclamer, et l'autorité, voire l'autoritarisme, qu'ils peuvent exercer. Là non plus, ne voyez pas une attaque ciblée contre ce gouvernement ou un autre, mais la dénonciation d'une attitude profondément ancrée en l'être humain. Je reprends juste les mots de Jésus. Vous le savez, ceux qu'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître, les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ajoute, parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. En Église, selon ce passage, il ne saurait y avoir de maître. Pour être un peu plus précis, les deux actions dénoncées, commander en maître et font sentir leur pouvoir, sont la traduction de deux verbes grecs partageant le même préfixe, kata. Ce préfixe a plusieurs sens principaux, dont deux sont de haut en bas, comme dans catastrophe, hein, ce qui veut dire se retourner vers le bas, donc s'effondrer, ou entièrement, que l'on trouve dans catalogue, ce qui signifie une liste complète. Et je me permets donc d'avancer l'idée que ce n'est pas l'autorité même qui est ici contestée dans l'Église, mais deux de ces abus. Celui qui tend à faire croire qu'une personne détenant une autorité est supérieure à une autre et que cette autorité s'étend au-delà de son domaine dans tout et qu'il impacte tous les domaines de la vie, tous les aspects de la vie. Il faut bien pourtant qu'une autorité existe si on veut que des choses se fassent dans la cohésion et le respect. Ainsi, dans l'Église, il y a des instances dirigeantes, des personnes chargées d'une autorité. Mais toute autorité y est non pas donnée, mais prêtée, et circonscrite à un champ d'application et à un temps d'exercice. Nous avons même une expression pour ça. Cette expression, nous l'avons entendue dimanche dernier, lorsque les instructions ont été données au conseil presbytéral au moment de sa reconnaissance. Je vous rappelle ces paroles, des fois que vous n'auriez pas entendues. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. La soumission mutuelle. Cette idée est tirée d'un passage de l'Épître aux Éphésiens. Elle ne va pas de soi, cette idée. Un collègue m'a révélé qu'une partie de son conseil a commencé par refuser qu'elle soit évoquée lors de la reconnaissance et qu'il avait dû utiliser pédagogie et diplomatie pour faire comprendre sa signification. Il est évident que dans notre société française du XXIe siècle, le mot même de soumission fait grincer les dents, surtout s'il s'applique à nous. Mais il est rapidement évident aussi que le concept de soumission mutuelle ou réciproque n'a rien d'évident. Cela ressemble même à un oxymore, voire à une aporie. Il nous faut changer nos mentalités ici aussi. Même si nous professons le contraire, nous n'avons que trop tendance à considérer qu'autorité rime avec privilège et avantage plutôt qu'avec charge et responsabilité. Oui, je sais que ça rime pas du tout, ou alors très pauvrement, mais c'est dans le sens figuré. Je n'ai aucun souci avec le fait qu'une autorité amène une forme de compensation. Le problème survient lorsque l'autorité vous place au-dessus des autres et que vous regardez de haut en bas. Il n'en sera pas de même parmi vous. Qu'en est-il dans l'Église ? Notre avantage de protestant, il faut bien qu'il y en ait tant, est d'affirmer que l'Église est une institution humaine, à vocation divine. Par là, nous attendons qu'elle est appelée par Dieu et que son existence est voulue par lui, mais que ses structures et son fonctionnement relèvent des êtres humains. Bien sûr, nous sommes appelés à vivre en frères et sœurs. Bien évidemment, les revendications d'ego et les querelles de préséance n'y ont pas leur place. Mais il faut bien admettre qu'il y a loin de la théorie à la réalité, de la vocation à l'exécution. Même si on peut se réjouir qu'ici, à Annecy, nous soyons plutôt préservés. Où est l'avantage ? C'est qu'on peut faire ce constat navrant sans en rejeter entièrement le blâme sur l'Église, mais en reconnaissant humblement que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de notre vocation, individuellement ou communautairement. Ainsi, pour conclure, nous sommes invités à pratiquer dans notre vie, ecclésiale d'abord, mais quotidienne ensuite, ce concept de soumission mutuelle, qui nous transforme ainsi ni en tyran, ni en oppressé, tout en nous gardant d'un égalitarisme méfiant et paralysant. Enfin, je voudrais ici partager mon sourire lorsque j'ai relu le fameux passage d'Éphésiens. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses, pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Je me suis rendu compte qu'en grec, les uns aux autres se disaient Alléloïs, ce qui, vous l'accorderez, ressemble quand même beaucoup à Alléluia. Ainsi, pratiquer la soumission mutuelle, c'est rendre doublement gloire à Dieu. Alléluia. Tu me veux à ton service, cantique 4407, page 662, 662, numéro 4407.
Père, accomplisse ton désir.
Nous restons debout pour la confession de la foi. Je vous invite à dire ensemble celle qui se trouve en fin de votre... qui est censée être là, le numéro 7, qui commence par « Je crois en Dieu le Père ». Ce n'est pas très original, il y en a beaucoup qui commencent comme ça, mais c'est le numéro 7. Je crois en Dieu le Père, je crois qu'il a créé le monde pour l'être humain. Je crois qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour, et qui rend possible toute justice et toute espérance. Je crois que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple, le peuple de Dieu, son Église, signe d'amour et d'unité, signe de la présence et de la tendresse de Dieu. Je crois que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu, que l'être humain est déjà renouvelé. Mais je sais que cette résurrection doit se faire chaque jour, jusqu'à ce que Jésus revienne et nous rende semblables à lui. C'est pourquoi j'attends un monde nouveau. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Mon seul abri, c'est toi.
C'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me désires, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma
prenez place. C'est maintenant le moment du don, le temps de l'offrande, que chacun donne selon sa conscience.
Seigneur, avec l'offrande que voici, nous élevons nos mains pour te rendre grâce. Apprends-nous à la partager avec ceux que tu nous as confiés. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen.
Quelques annonces pour la semaine à venir.
Bonjour à chacun. Cette semaine, donc le mardi, nous avons la chorale, même si c'est les vacances scolaires, donc à 19h15. Mais mercredi, il y a la prière à 18h. Et dimanche prochain, il y a le culte à 10h. Et n'oubliez pas qu'il y a le changement d'heure. Voilà, donc...
Sinon, vous attendrez dehors, quoi.
si vous ne voulez pas arriver une heure en avance, n'oubliez pas de changer l'heure. Sinon, il y a Florence, il y a Marguerite qui m'a indiqué ce matin que Florence, qui fait partie de notre conseil, donc il y a eu un décès dans la famille, donc le papa des enfants est décédé au Congo et le service funèbre a lieu aujourd'hui. Voilà, donc nous pouvons penser à Florence et à ses enfants. Et puis une dernière chose, la paroisse a reçu des feuilles d'inscription pour Parole pour tous. Donc si vous voulez vous inscrire pour recevoir ce petit document qui permet la lecture de la parole de Dieu d'une manière quotidienne, eh ben, n'hésitez pas à venir me voir. J'en profite pour faire un petit retour sur la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu deux rendez-vous jeudi et vendredi. Le jeudi pour une étude biblique et vendredi pour un partage biblique écuménique. Et il y a très peu de monde qui vient et je trouve ça dommage parce que la parole de Dieu, c'est au cœur de notre vie et on nous propose des rendez-vous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre le mois prochain. Merci.
Cette semaine, nous avons également accompagné deux familles qui ont subi un décès. D'abord, la famille de Julien Richard, qui est décédé à Alex. La famille n'est pas du tout d'ici. Hein. C'était quelqu'un de relativement jeune. Il était plus jeune que moi, donc relativement jeune. Et bien sûr, la famille de Lucienne Friedli, la maman de Martine et de Laurent. Oui, bien sûr, nous remercions les personnes chargées de l'accueil et de la musique, Marie-Vonne pour la musique, Frédéric et Yvon-Serge pour l'accueil. Et les fleurs. Alors, je n'ai pas vu qui avait amené les fleurs. Barbara, notamment. Et un des bouquets nous a été donné par la famille de Lucienne. Parmi les choses un peu désagréables et pénibles, je viens de recevoir ce matin un mail de mon collègue. Alors je disais qu'il n'y avait pas de conflit majeur à Annecy et qu'on se réjouissait. C'est malheureusement pas le cas pour la paroisse de Savoie. On croyait que le conflit était plus ou moins résorbé et il semblerait que ça réexplose. Donc il ne s'agit pas pour nous de rentrer dans les détails ou de prendre parti, etc. Il s'agit de prier pour eux. L'église doit être un lieu qui n'est pas censé être un lieu de souffrance. Et en l'heure actuelle, ça l'est. Donc, je vous invite à prier pour que l'appel et la joie de la fraternité se retrouvent dans notre église sœur de Savoie. Oui, alors tu voulais dire un mot, viens.
Bonjour à tous. Si c'est le fils, t'improvisais tellement, ma mère. Alors, maman, je te rends un hommage exprès pour toi, parce que tu as fait exprès pour ton fils. Bonjour, maman, c'est Jean-Michel Pernol, ton fils. Moi, je vais avoir 44 ans le jeudi 17 octobre. Bientôt. Maman. Je t'aime, maman. Tu me manques énormément. Parce que tu aimes ton fils, ton bébé. Moi, j'ai repris mon travail le jour de ton anniversaire. Parce que tu aurais eu 84 ans le 8 octobre 2024. Je t'aime, maman. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours.
Nous allons maintenant partager le pain et le vin, en l'occurrence du jus de raisin. Chacune est la bienvenue s'il reconnaît Jésus comme sauveur, s'il se sent appelé. Il n'est pas de condition d'appartenance ou de dignité. simplement une invitation qui n'est pas la nôtre, qui est celle de Jésus, à tous ceux qui se réclament de lui. Nous formerons donc un cercle et nous ferons circuler le pain et le jus de raisin tout à l'heure. Je vous invite aussi à prendre vos cantiques avec vous le moment venu, le moment de l'appel, parce que nous terminerons en restant ici autour.
Attendez, non, ne vous emballez pas. Je vais donner les instructions.
J'expliquais. C'est bon, là, ça passe, c'est là. Produit du terroir, rugueux comme l'existence, issu d'un travail intense et d'une grâce immense, du pain qui nourrit et du vin qui réunit et réjouit, condensé des besoins humains. Du pain et du vin pour mémoire de la grâce de Dieu dans notre histoire. En Jésus, il a ouvert un chemin de vie et soumis à la loi de l'Esprit, il y a déposé une semence au creux des besoins humains. Le vin d'espérance, la promesse de sa présence, le sceau de l'éternelle alliance. Du pain et du vin rappellent de la croix, de la victoire sur la mort et de l'amour sur la loi du plus fort. Appel à la foi lors du partage saint, introduction à l'instant, au face-à-face avec le vivant. Dieu présent au peuple des croyants et à tout être cherchant, en tout lieu et dans tous les temps, depuis 2000 ans. Du pain et du vin de ce pays, pour vous, amis. Seigneur Jésus, par ton esprit. Saint Père, toi qui par ta loi a parlé à la solitude de ton peuple, lui a donné l'eau dans le désert et le pain dans la famine. Oui, tu es saint, Jésus de Nazareth, toi qui nous as donné l'été en hiver, la lumière à minuit et la mort vivante. Oui, tu es saint, Esprit de Dieu, qui ne cesse de nous pousser, qui de pousser hommes et femmes à de nouvelles audaces, à faire germer les arbres secs et grandir le peuple de tes enfants, afin que s'accomplisse la promesse du Christ. Lui qui, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, remercia Dieu, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons devant toi et en Église ce mémorial. Jésus, ton Fils, s'est offert librement pour qu'à notre tour, nous puissions faire de notre vie une offrande et une louange. Que vienne maintenant ton esprit pour nous faire entrer avec ce pain et ce vin dans le mystère de ta présence. Souviens-toi de l'Église, ta communauté sur la terre. Donne-lui toujours les servantes et les serviteurs dont elle a besoin et garde-la dans l'unité avec les témoins de tous les temps. Dans cette communion, toutes nos demandes comme toute notre confiance, nous te les présentons en te disant la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous.
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Amis, la table est prête et mise. Amis, venez. Le pain est partagé et bonté. Amis, venez, la coupe est pleine de joie promise. Venez tous, car tout est prêt. Il est le fruit de la terre et le travail des humains. Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel, la proclamation et le signe du sacrifice, de la présence de Jésus, du Seigneur Jésus, qui a dit « Je suis le pain vivant venu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Voici le vin. Il est le fruit de la terre et du travail des humains. Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel, la proclamation et le signe du sacrifice et de la présence du Seigneur Jésus, qui a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure attaché à moi portera beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Seigneur, tu as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi dans ton Église. Pour que ta volonté soit faite, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous à l'unité parfaite en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Thank you.
Seigneur Dieu, que l'amour dont tu nous as nourris à cette table comble nos cœurs et nous incite à partager ta tendresse avec tous nos frères et nos sœurs par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu et notre Père, toi qui es fidèle et qui nous as appelés à la communion de ton Fils Jésus-Christ, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance, au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te jouer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions proclamer ton nom et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour notre communauté et pour tous ceux qui, partout dans le monde, invoquent ton nom. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui sont dans la souffrance physique ou morale, pour tous ceux qui sont seuls. Nous te prions pour la paix dans le monde, donne discernement et sagesse à tous les dirigeants. Et par-dessus tout, Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer. Amen. Le Seigneur règne, à lui la terre et tous ses habitants. Maintenant, il nous envoie sur les routes du monde pour dire son amour et notre espérance. Que le monde voie votre lumière, qu'il entende notre parole, qu'il ressente notre joie. Car nous sommes des témoins du Christ ressuscité, celui qui nous fait vivre de sa vie et qui nous guérit de nos lèpres intérieures. Que sa paix vous accompagne jour après jour. Amen. Tu nous appelles à tes pieds.
Dans mes lectures, oui. Enfin, je suis abonné aussi, entre autres, à la presse protestante, parce qu'il y a la presse catholique, oui. Et j'ai, dans le témoignage chrétien, il y a eu un commentaire sur le texte du jour, oui. Et il disait qu'il y en avait deux qui allaient se retrouver à droite et à gauche.
Ah oui, c'est ça, ouais, la même chose.
Ouais. Les deux la roue.
Ben oui, c'est ce que j'ai dit, oui.
Comment
comment on a dit ça? C'est qui avait utilisé cette image? Si tu veux,